Bonsoir à tous. J'ai la banane, je suis content parce que hier on avait un vidéoprojecteur qui ne fonctionnait pas bien du tout. On voyait pas bien les diapos. Alors ça marche. Vous avez de la chance. Alors je me présente, Yann David. Je suis luthier au Mans. Et donc je vais vous faire une présentation, comme le titre l'indiquait, sur la guitare en général. Alors, on va découper ça en trois parties. On va déjà voir le fonctionnement de la guitare. On va pas voir la construction totale, mais on va s'arrêter sur des éléments moteurs de la guitare. Ensuite, on verra l'organologie, l'histoire de l'instrument. On ne verra pas toute l'histoire depuis qu'on parle de sitar, etc., et d'arc musical. On va vraiment démarrer au moment où on parle réellement de guitare. Pour s'arrêter en 1930, là où a été conçu l'instrument de Django Reinhardt. Et puis, dernière partie, c'est celle où justement on s'attardera sur un monsieur qui s'appelle Mario Macaferri, qui a été le père de cette guitare. Voilà. Une chose qui me venait en tête, mais non, c'est pas ça. Alors. Déjà pour débuter, qu'est-ce qu'un son? Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un son? C'est une vibration.
Un bout, c'est un son.
Ouais. Donc oui, on dit une vibration. Là finalement on a un exemple intéressant, c'est qu'on a ces haut-parleurs. Parce que, comme je vais le dire ici, là, le son c'est un déplacement d'air. Sans air, il n'y a pas de son. Alors ce déplacement, on l'imagine bien aussi quand on jette un caillou dans l'eau, ces vibrations, ces ondes d'eau qu'il y a, bah c'est un peu la même chose, je vais frapper dans les mains, c'est comme si je jetais ce caillou, et je vais déplacer de l'air, ça va être ça le son. Et bien sûr notre oreille bah, finalement est équipée pour recevoir, analyser cette vibration, la retranscrire, pour nous dire bah, c'est un son de quoi, c'est un son de quel instrument, c'est quelle note, voilà. On servira des baffes sur la suite. Maintenant, sur la guitare, finalement, qu'est-ce qui fait que la guitare produit un son? Je vous laisse la parole. Une corde qui vibre, super, on a la première réponse. En lutherie, on va dire la corde est excitée par le doigt, par un médiator. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? La résonance,
la caisse.
Ouais, la résonance de la caisse. Alors, plus exactement, si on suit ça, il y a la vibration de la corde qui est transmise au chevalet. Alors, je vais prendre une guitare. Donc voilà, on a notre corde qui va vibrer. La corde est transmise au chevalet, qui est la pièce qui va être au milieu de la caisse de la guitare. Et c'est ce chevalet qui va vibrer, qui va transmettre la vibration à la table d'harmonie qui est ici. Et donc c'est là qu'on se sert de notre haut-parleur, parce que la table d'harmonie, c'est ni plus ni moins que la membrane qu'on peut voir, qu'on verrait bouger s'il n'y avait pas la grille sur ce haut-parleur. Et cette membrane crée un déplacement d'air. Là, elle est excitée avec une bobine, voilà, mais sinon, donc là on a notre table qui vibre, et effectivement il y a un déplacement d'air qui est double dans la guitare. Il y a l'air qui est extérieur à la table, qui, on le sait, génère plus les fréquences aiguës. Et puis il va y avoir un échange d'air avec la perce qu'il y a ici, elle est beaucoup plus grande sur celle-ci. Il va y avoir un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur, un pompage en fait. Et ça, ça va générer plutôt les fréquences graves. Mais effectivement, c'est tout l'instrument qui va vibrer. Et c'est surtout pas, le son ne sort pas de la rosace, de la perce qu'il y a dans la guitare, comme l'eau pourrait sortir d'un robinet. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, si vous voyez des ingé-sons là sur la fête amplifier une guitare acoustique, on va mettre le micro à un endroit où on va entendre le plus de fréquences graves, aiguës, et où on ne sera pas gêné par des interférences. Si on met le micro juste en face, on va avoir beaucoup de sifflements. C'est tout ce qu'on a dit. Et donc on va s'arrêter sur cette pièce maîtresse, notre table d'harmonie. La table d'harmonie qu'on voit ici, on a du mal à imaginer que la première chose, c'est qu'elle est en deux parties déjà. Donc c'est initialement une seule et même planche. Et cette planche, on va la scier dans le sens de la longueur pour l'ouvrir comme un livre. Et ensuite, jointer la table d'harmonie. Alors, pourquoi faire ça en deux parties? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée? Pour avoir une symétrie. Alors finalement, je vais revenir tout de suite, c'est la bonne réponse. On y va. C'est une symétrie qui va être mécanique et acoustique. Le bois, c'est un matériau qu'on dit isotrope, c'est-à-dire qu'il a des particularités physiques différentes ici et ici et ici, parce qu'il est naturel. Et donc finalement, le fait de coupler deux pièces totalement identiques, ben, ça veut dire qu'on a une symétrie à la fois mécanique et à la fois acoustique. Et cette symétrie, peut-être qu'on y serait arrivé de nous-mêmes, mais finalement, elle nous est imposée aussi de par la taille de l'instrument et la taille des arbres. Si je voulais une table large comme ça, vous imaginez l'écorce d'un côté, le tronc au milieu, et la deuxième partie. Donc il faudrait un épicéa qui soit très très large. Alors sur certains instruments, on pourrait le faire. Le collègue qui était là juste avant et qui parlait de l'alto, ben dans l'alto et dans le violon qui est là encore plus petit, le violon, on pourrait très bien faire des tables en une partie. On les fait là aussi en deux parties. On va voir cette symétrie acoustique et mécanique. Et après, le joint de collage qui est entre les deux, c'est pas un problème du tout, parce que le collage, par définition, c'est plus solide que le bois en lui-même. Donc si ce joint lâche, c'est qu'il est mal réalisé, mais sinon, si ça fend, ça fendra à côté du collage. Et puis la chose importante, ben, c'est comment, où est-ce qu'on va prendre la pièce pour faire cette table d'harmonie. Alors en fait, quand on va débiter une table d'harmonie, on va prendre cette pièce dans ce sens-là. C'est celle qu'on pourrait voir ici, avec un veinage qui est perpendiculaire au plan de la planche. Et en opposition totale, on a cette planche, avec, ou même celle-ci surtout, avec une veine qui va être parallèle au plan de la planche. Et alors ça va être pour des raisons de stabilité. Déjà là, le petit dessin ici nous montre les déformations du bois. On dit toujours que le bois va tirer à cœur. Là, cette planche ici, c'est pas très accentué, mais en fait, si vous la débitez et qu'on la laisse sécher, cette partie-là va aller tirer vers le cœur et la planche va se déformer en arc de cercle. Alors que celle-ci, elle va vraiment maigrir un tout petit peu en épaisseur, mais c'est tout. Elle va rester plane, elle va rester droite. Donc il y a déjà des raisons de stabilité quand le bois sèche. Et il y a aussi surtout une raison mécanique. Alors je vais reposer le micro ici. Je vais prendre le classeur et le classeur en fait va matérialiser la fibre du bois qu'on voit ici. Si mon chevalet est collé ici, j'ai une planche avec des fibres qui sont assez solides. Et si je mets la fibre du bois dans ce sens-là, ben je me retrouve avec un bois qui est beaucoup plus souple. Et ces alternances, en fait, je vais le faire passer, hein, ces alternances de bois très blanc et de bois un peu plus foncé. Le bois plus foncé, c'est la partie qui pousse en automne, une saison où il fait beaucoup plus froid qu'au printemps. Cette veine est pleine de résine et est très compacte et très solide, en opposition au bois de printemps qui est plus clair, qui est beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger, mais beaucoup moins solide. Et finalement, cette alternance de bois solide, moins solide, solide, moins solide, et ben c'est comme si on fabriquait une coque de voiture de course avec du carbone. On a des tissus qui sont alternés, ça nous crée un matériau solide. Donc on peut dire que l'épicéa, en quelque sorte, c'est un matériau de synthèse qui nous est offert par la nature. Et donc là, j'ai une planche qui fait 4 mm d'épaisseur, elle va finir à 2 voire 3 mm, et déjà, elle est quand même déjà assez solide. Et ce bois est léger, résistant, et finalement, on sait aussi, à travers des expériences, que la résine nous permet une conductivité très très rapide de la sonorité. Donc c'est vraiment le bois de résonance par excellence. C'est dans celui-ci qu'on va faire les tables de guitare, les tables des... Si on retournait ce piano, derrière, il y a une table d'harmonie qui est en épicéa également, les tables des violons, etc. Voilà, j'avais fait un petit point ici, on va la faire passer durant toute la conférence, et vous pouvez... Alors, c'est pas extrêmement précis, il va falloir que vous trouviez le point, mais il y a un moment où on arrive à la tenir et à la taper, et à entendre le bois résonner. Et on peut l'entendre très longtemps, là ça va être un peu dur avec le bruit. Alors oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, là c'est ce qu'on a montré, la table qui s'ouvre en livre. Et donc la guitare, eh ben, elle a besoin de cette membrane légère et en même temps solide pour vibrer à la façon d'un haut-parleur. Sauf que le haut-parleur n'a pas la contrainte d'avoir des cordes accrochées dessus. Donc le haut-parleur, on le voit vibrer très librement. Il y a une petite membrane qui le tient très peu, il vibre en toute liberté. Là, notre guitare, il faut qu'elle soit solide, mais qu'elle résiste à la tension des cordes. Donc c'est là qu'on va finalement faire une table très fine, mais ajouter derrière un renfort mécanique. Donc c'est celui qu'on va pouvoir voir là, ici, derrière cette guitare. Mais alors, des renforts comme celui-ci, il y en a une infinité. Chaque luthier peut définir le sien, le faire évoluer au fur et à mesure, chaque fabricant. Et donc la nature de ces baguettes, leur hauteur, leur longueur, la façon dont elles seront sculptées, bah, tout ça va avoir une influence sur la sonorité. Après, bêtement, on peut savoir que plus je vais la faire haute, cette baguette, plus elle va être rigide. Donc ma guitare va avoir une sonorité franche, directe, mais peut-être pas beaucoup de longueur de son et pas beaucoup de grave. Et à l'inverse, je peux la faire plus basse et beaucoup plus souple. Et là, j'aurai une guitare avec beaucoup plus d'amplitude, de rondeur, mais un son qui sera moins brillant. Je crois que je m'arrête là sur le fonctionnement vraiment de la guitare. Est-ce qu'il vous vient des questions sur d'autres parties de la guitare, hein, où elle pourrait servir, là. Ouais.
On était dans le bois, sur le manche de guitare. Selon le bois choisi, le toucher est différent et même la sonorité.
Ouais, effectivement. Là, comme tu le dis.
Moi, je fais plus de l'électrique, donc c'est plus le manche qui m'intéresse généralement.
On va s'appuyer sur ça. En guitare électrique, on peut des fois avoir des manches en une seule pièce, qui sont des manches d'un bois blanc, qui sont des manches en érable. Et en opposition, ce manche peut être aussi en érable, mais dessus, il va y avoir la touche, cette pièce qu'on voit ici. Donc là, je peux avoir un manche à l'arrière en acajou, et devant, je vais avoir une touche rapportée qui peut être en palissandre. Déjà, là, mécaniquement, on a un couplage, on a un collage qui va rigidifier l'ensemble, par exemple. Et puis, effectivement, si tu fais un manche dans une essence et un manche dans une autre, bah oui, ils vont avoir tous les deux une influence sur le son, et donc modéliser le son avec un son plus direct, ou avec plus de grave, ou des sonorités plus longues. Donc oui, ça a une influence. Alors après, c'est une question pertinente. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, bah, une guitare sonne mieux quand le vernis est au tampon ou cellulosique. La guitare sonne mieux quand le manche est en une seule pièce en érable. » Alors ça, finalement, c'est exactement comme dans le violon. On dit que les violons Stradivarius sonnaient très bien parce qu'il avait un secret de vernis. C'est jamais qu'un seul paramètre. Si on met un moteur très très performant sur une 4L, bah, elle ne gagnera pas les 24 heures, même si elle a le meilleur moteur. Et donc dans la guitare c'est pareil, et dans tous les instruments, toutes les pièces sont interdépendantes et ont un rôle, mais on ne peut pas dire que la guitare sonnera mieux parce que le manche sera de telle sorte ou de telle sorte.
Est-ce qu'il est indispensable qu'une guitare électrique soit aussi lourde ?
Non, mais il y a un mythe là aussi, une Les Paul de chez Gibson, il faut que ça soit lourd pour que ça sonne, etc. Non, c'est pas primordial maintenant.
En quoi se joue la forme de la guitare, la forme de la caisse,
hein. La forme de la caisse, c'est vraiment pour une question pratique à la fois pour reposer sur la jambe et une question mécanique aussi. L'église qu'on voit ici, si je la faisais ronde, mécaniquement elle serait moins stable et moins solide. Le fait d'avoir cette hanche cintrée, ben, ça permet aussi une stabilité. Voilà. Je pense qu'avant tout, c'était aussi la guitare pour qu'elle puisse s'appuyer.
Ça joue pas sur le son.
Bon, si on change la forme, ça changera le son. Mais non, cette forme-là n'est pas voulue pour que la guitare sonne son guitare. Alors au niveau des bois, il y a deux essences. L'épicéa qu'on voit passer, qui est la demi-table en blanc, qui est vraiment le bois historique pour les tables d'harmonie. Et la table qui est entière avec son barrage, c'est du Red Cedar, du cèdre rouge du Canada. Et donc, là aussi est un bois résineux. L'épicéa va être plus franc, plus direct, plus clair. Le Red Cedar va avoir plus de médium. Et puis, pour un musicien débutant, quelquefois, c'est aussi plus simple. On ressent cette tendresse aussi dans la tension des cordes. Alors, on va avancer sur... Non, c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là qui est intéressante. L'acajou est un bois plus lourd que l'épicéa, comme vous pouvez le voir. Il y a deux modes de construction de guitare, principalement. Il y a la guitare qu'on dit construite à l'espagnol. Donc là, comme on le voit sur la photo, vous avez le manche. Le manche qui est ici, avec une partie du manche qui continue à l'intérieur de la guitare. Et l'éclisse, la partie en bois cintré, va venir se loger dans le manche. Donc là, on va dire qu'on construit la guitare autour du manche de la guitare autour du manche. Alors qu'en opposition, la technique qu'on dit à la française, là comme on le voit, on fabrique la caisse d'un côté, le manche de l'autre. Et ça nous a permis surtout une mécanisation. Et avant de parler de mécanisation et de voir des usines, etc., à Mirecourt, dans les Vosges, on a longtemps fabriqué des guitares, et ça permettait à une usine de fabriquer des manches, à une autre de fabriquer des... ou alors au sein même de l'usine, de diviser les travaux, et d'assembler n'importe quelle manche sur n'importe quelle caisse. Alors qu'à gauche, on devait vraiment avoir un artisan qui faisait la guitare de A à Z. Alors les deux, quand elles sont bien construites, on peut très bien fabriquer deux guitares avec ces deux modes de fabrication, on n'a pas une qui sonnera mieux que l'autre, si c'est bien fabriqué. Donc là on arrive sur la deuxième partie, on va parler de l'historique de la guitare. Alors les cantigas de Santa Maria, comme on voit ici, c'est une illustration qui est issue d'un recueil de tablatures, de chansons. C'est la première fois qu'on parle vraiment dans le texte de guitare. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on nous parle de guitare latine d'un côté et de guitare mauresque de l'autre. Et à gauche, on ne le voit pas très bien, mais ce musicien joue plutôt avec les doigts. Et dans le texte, on nous parle d'une sonorité douce, intéressante, chaleureuse, etc. En opposition à celle de droite, où il a un plectre, un médiateur dans les doigts, peut-être à l'époque en écaille de tortue par exemple, et là on nous parle d'une sonorité beaucoup plus perçante et de cordes métalliques. Donc, dès le XIIIe siècle, on a cette opposition, entre parenthèses, guitare classique, et de l'autre côté, la guitare folk avec ses cordes métalliques. Ouais. Alors après, on a plus tard ces deux guitares qui s'opposent à l'époque baroque. Cette guitare en haut qui a là encore des cordes en boyau. Et puis cette guitare en bas qui a des cordes métalliques. Et là encore, dans les textes, on nous parle bien que la corde métallique est là pour accompagner les danses, les chants, les musiques populaires. Et que l'autre guitare est là pour plus des musiques raffinées, des musiques de chambre pour l'aristocratie. On est à l'époque baroque, donc comme sur les cathédrales qu'on peut voir, il y a ici tout un montage, comme une pièce montée en parchemin. Et cette pièce est juste là pour apporter une décoration, mais en fait, en soi, elle empêche même l'instrument de sonner bien, parce que elle empêche l'échange d'air dont on a parlé au départ. Au passage, j'appuie sur... Vous voyez peut-être une espèce de petit trait. C'est une usure qu'il y a eu parce que cette guitare a une pliure sur la table. La table est pliée pour, à la façon d'une pyramide, on va dire, avoir une résistance mécanique avec l'appui des cordes. C'est pas très clair pour la jeune fille derrière, qui a l'air jugeante. Donc on y reviendra sur cette table pliée. Et donc, en 1780, c'est la date vraiment à laquelle on voit apparaître des guitares à 6 cordes simples. C'est ça que je voulais dire juste avant, on va revenir juste avant. À l'époque baroque, j'ai pas appuyé sur le fait que vous voyez ici des chevilles d'accordage au nombre de 10. Donc on a en fait 10 cordes, et plus exactement on a 5 Q cœur de corde. Les cordes sont regroupées par deux et sont accordées à l'unisson ou à l'octave. Et en fait, le fait d'avoir deux cordes pour une même note, c'est juste pour essayer de gagner en volume sonore. Et finalement, quand on ajoute deux sons identiques, si quelqu'un disait la même chose que moi avec la même amplification, on gagnerait que 4 décibels. On gagne pas grand-chose. On gagne un peu, mais vraiment pas grand-chose. Et surtout, à l'époque, on gagne beaucoup d'ennuis parce qu'on a des cordes qui sont bien fabriquées pour l'époque, mais qui ont des disparités entre elles. Et donc, il peut y avoir une dissonance. Donc, on gagne un tout petit peu, mais on perd. On a plein de désavantages. Alors que là, en 1780, on arrive à la guitare à 6 cordes simples avec son accord actuel. C'est aussi parce qu'à l'époque, on a fait des cordes, fabriqué des cordes. C'était plus des cordes de boyon, c'était des cordes avec une âme en soie qui était filée de métal. Et on a pu avoir des cordes plus graves qu'avec une corde en boyon. La photo de droite est intéressante parce qu'on voit qu'il y a un barrage renfort à l'intérieur, mais qui est très différent et très simpliste comparativement à celui qui est passé sur la table d'harmonie. Et quelquefois, on avait même juste deux barres de part et d'autre de l'ouverture pour renforcer parce qu'on a cette faiblesse vu qu'on a coupé la guitare. Et quelquefois, on n'avait même pas cette barre ici. On avait juste une table plus épaisse que celle qui est passée, donc une peau qui n'était pas vraiment vibrante. Après, on a commencé à réduire l'épaisseur de la table et à rajouter des renforts, mais toujours des renforts transversaux. Et donc en 1850, en Espagne, il y a ce monsieur qui s'appelle Antonio de Torres, qui pour les guitaristes avertis est le Stradivarius de la guitare. Alors c'est un monsieur qui a arrêté les standards de la guitare classique. Depuis 1850, on fabrique toujours les guitares classiques sur son modèle. Toutes les guitares que vous pouvez croiser en guitare classique, même celles qui sont fabriquées en Chine, les guitares de chez Yamaha, sont vraiment issues de ce modèle-là. Torres, on lui a attribué le barrage en éventail, il l'a standardisé, il a fait des expériences acoustiques, il a vraiment prouvé le rôle moteur de ce barrage, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Il a standardisé le fait d'avoir une touche rapportée sur le manche, d'avoir moins de décoration. Il a standardisé exactement le dessin et l'accroche au chevalet. Il a vraiment arrêté tout ce modèle. Il a certainement inventé des choses, mais il a surtout réunit tout ce qui se faisait de bien à l'époque et fabriqué un instrument que tout le monde a copié ensuite. Et quand je parle des expériences acoustiques, il a fabriqué une guitare qui existe toujours dans un musée en Espagne, avec les côtés de la guitare et le fond de la guitare qui sont dans un matériau cartonné, papier mâché, avec une table en épicéa correctement barrée pour montrer le rôle moteur primordial de cette table d'harmonie. Alors après, dans les standardisations, on a un monsieur qui s'appelle Christian Friedrich Martin, qui aux États-Unis a arrêté le modèle de la guitare folk qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce monsieur, c'est un Autrichien d'origine qui a appris son métier en Autriche auprès d'un autre grand luthier. Et il est arrivé aux États-Unis avec sa guitare qui ressemblait exactement à la première guitare à six cordes qu'on a vue. Et puis, comme Torres, Atlantique, eh bien, il s'est dit, bah, tiens, il faut que ma table ait un rôle moteur, il faut qu'elle soit fine, mais il faut la renforcer. Et donc, il a fait les mêmes travaux que Torres, mais il est arrivé, lui, à un barrage en X pour renforcer sa guitare. Et en fait, pendant 70 ans, ces guitares étaient montées avec des cordes en boyau, puis des cordes classiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais le barrage en X, au départ, était pour des guitares classiques. Et puis, c'est vraiment en 1930 qu'ils ont standardisé le montage en cordes d'acier. Et depuis le début, en fait, c'est ce qu'on voit dans l'origine de la guitare, on essaie toujours d'avoir un instrument le plus sonore possible. La guitare, elle part un peu des orchestres parce qu'on l'entend vraiment moins que tous les autres instruments de l'orchestre. Je pensais que tu avais une question. Oui. Quand Christian Friedrich Martin arrive aux États-Unis en 1833, 100 ans avant l'arrivée de la guitare folk, mais c'est quand même lui qui met des barrages en X dans ses guitares classiques. Mais effectivement, c'est pas Christian Friedrich Martin, c'est sa descendance qui met au point la guitare folk. Ouais, tout à fait. C'est vrai que sur ces guitares de Martin, on voit 1833 en haut de la tête de la guitare. Ouais.
Sur les premières,
que c'est ? Oui, c'est avant 1900. Mais ils standardisent en fait en 1900 le barrage en X sur toutes les guitares. Et en 1930, ils standardisent le montage en corde d'acier. Ah oui, c'est ses descendants, oui. C'est ses descendants qui mettent au point la guitare folle. On est tout à fait d'accord. Oui, on est d'accord.
Vous avez parlé d'accords des guitares.
Ouais.
Il existait avant des guitares avec les cordes accordées sur d'autres notes.
Oui, ça n'empêche qu'on a souvent enlevé la corde grave. Sur les guitares baroques, on n'avait pas ce mi grave. Mais finalement, depuis les années 1700, on tournait vraiment autour de cet accord. Et en 1780, quand on arrive sur la guitare à 6 cordes simples, on s'arrête sur l'accord qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'avance dans quelques standardisations pour amener sur la guitare de Mario Macaferri. En 1924, on a cette guitare qui ressemble beaucoup à un violon. Et c'est vraiment en 1924 qu'on fait ses premières guitares avec des ouïes comme les violons. Et le monsieur qui est dans la littérature reconnu pour avoir fabriqué des guitares comme des violons, c'est un monsieur qui s'appelle Orville Gibson. Et il est le premier. Il est en plus, pour l'anecdote, le seul monsieur qui n'ait pas appris le métier de luthier auprès d'autres luthiers. Il était passionné de lutherie, il a fabriqué des instruments, il les a fabriqués comme le violon. Et donc, avant Orville Gibson, à la fin des années 1800, personne fabriquait des guitares avec des tables voûtées comme celle-ci, exactement comme on peut le faire pour le violon. Donc quand je vous disais que la guitare, c'était un instrument qui sans cesse a cherché à sonner plus fort, il y a eu des guitares aussi avec des pavillons comme ça, mais là je prends le violon. Il y a un acousticien anglais, il me semble, qui s'appelait Augustus Stroh, qui avait vu les gramophones qui fonctionnaient avec un pavillon et qui s'est dit bah, « Tiens, le gramophone, ça fonctionne bien, on pourrait pourquoi pas adapter ça sur l'instrument de musique. » Et donc on a un chevalet qui peut légèrement vibrer et une pièce qui va appuyer sur une membrane qui, elle, va vibrer à son tour et transmettre sa vibration au pavillon. Donc ce monsieur voulait, à la mode d'une trompette, et bien équiper tous les instruments du quatuor avec ce résonateur mécanique. Il y a eu des expériences acoustiques de fait récemment et on s'aperçoit que finalement, c'est pas la majorité des fréquences qui sortent du pavillon, c'est vraiment un résonnement plus global. Sur la guitare un peu plus tard, justement, il y a eu ces guitares à résonateur fabriquées par les frères Dopiera aux États-Unis qui reprennent ce même système. Le chevalet reçoit les cordes, fait vibrer trois petites membranes et donc amplifie le son de la guitare. Alors, c'est vrai que c'est des guitares qui sonnent plus fort qu'une guitare acoustique. Ces guitares ont eu leur succès, ont toujours leur succès, mais finalement, elles ont très rapidement été rattrapées par l'amplification électrique du son. Je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. Et donc, chez Rickenbacker, un fabricant toujours aux États-Unis, mais qui là encore a changé son nom, c'était Rickenbacher, je pense bien qu'il était aussi autrichien à l'origine, en tout cas d'Europe à l'origine. Et donc c'est souvent à ce premier monsieur qu'on attribue l'instrument électrique. Le premier instrument électrique, c'était cette frying pan, qui veut dire poêle à frire, guitare hawaïenne, qu'on jouait sur les genoux en promenant ce qu'on appelle un bottleneck, un goulot de bouteille, ou alors maintenant un tube métallique pour jouer des musiques hawaïennes. Et ce qu'on connaît moins de chez Rickenbacker, c'est cette Electro Spanish, qui est vraiment une guitare à part entière, qui était vraiment très en avance pour son époque, parce que cet instrument qu'on voit là est totalement fabriqué en bakélite, donc une matière synthétique dans laquelle est moulé tout le corps et aussi le manche. L'instrument entier est moulé, et les frettes qui séparent les cases sont elles aussi moulées dans cette bakélite. Donc dans les années 80, on a fait des guitares en plexiglas, etc. On se disait, on avance, on fait des instruments innovants. Dès le début de l'instrument électrique, il existait ce genre de choses. Et souvent on attribue finalement la naissance de la guitare électrique à Leo Fender, donc les guitares Telecaster, vers les années 1949-50. Or, ça existait déjà avant. Alors, tout ça c'était pour planter le contexte de l'époque, et on va voir à quel moment justement arrive notre guitare McAfee. Donc avant d'arriver sur McAfee, Luigi Mozzani était un concertiste italien. Donc il a eu une carrière de concertiste pendant, je pense, à peu près 30 ans. Et puis ensuite, il s'est vraiment arrêté en Italie et a fondé une école de lutherie dans laquelle il formait les gens à la fois à la lutherie et à la fois au jeu de l'instrument. On va écouter un petit extrait d'un morceau de Luigi Mozzani qui est toujours appris aux musiciens classiques aujourd'hui. Alors ce monsieur, qui est un concertiste bulgare, il me semble, joue sur une guitare de Luigi Mozzani. Et donc on voit que cette guitare a vraiment une appendice assez grande ici. Luigi Mozzani fabriquait et jouait beaucoup de guitares harpe. Celle sur laquelle on le voit jouer ici. On a eu une période de transition dans la lutherie où certains ne se sont pas arrêtés complètement sur l'instrument qu'avait proposé Torres. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des guitares plus grandes, ont rajouté des cordes, en ont enlevé, etc. Et il y a eu une époque où on a joué de ces guitares harpe avec des cordes plus graves qui permettaient d'avoir des tonalités qu'on va avoir sur le piano pour jouer des graves en plus sur notre instrument. Donc c'est pour ça qu'il y avait une appendice sur la guitare qu'on a vue. Et donc chez Luigi Mozzani est passé le monsieur qui nous intéresse ce soir, qui est Mario McAfee. Donc on voit ici à l'âge de 14 ans et 20 ans, qui joue sur des instruments qui ont été soit fabriqués dans cette école, soit par lui-même, mais qui sont là encore des guitares harpe. On va écouter un petit extrait. Il y a eu très peu d'enregistrements de Mario McAfee. La qualité n'est pas superbe. Thank you. J'aime bien cette période, j'aime bien ce qu'a fait Mario McAfee, etc. Donc je sais pas si c'est les sentiments qui l'emportent sur ça, mais ce morceau, même quand on regarde la date de 1914-1920, je me sens vraiment dans une exode. Voilà, ce morceau m'apporte ça. La vie de Mario McAfee sera liée à la guerre aussi, on le verra plus tard. Et donc Mario McAfee, dans sa période de musicien, il va aller partout en Europe. Il va notamment à Londres être amené à rencontrer Henry Selmer dans un magasin de musique. Henry Selmer a déjà à cette époque une grande entreprise de fabrication d'instruments de musique en France à Mantes-la-Jolie. Et au fil des discussions, il voit que Mario McAfee a fabriqué des instruments, a un œil vraiment averti sur la lutherie. Et ils vont d'un commun accord finalement arriver à se dire eh ben, tu peux disposer de tous les moyens de l'usine à Mantes-la-Jolie. Il faudrait mettre au point une gamme d'instruments de musique parce que chez Selmer on aimerait aussi vendre des guitares. Selmer est déjà une grande boutique à l'époque, hein, puisqu'on voit qu'en 26 ils ont déjà 136 salariés. En 29 ils rachètent les ateliers d'Adolphe Sachs, qui est l'inventeur du saxophone, mais finalement, aujourd'hui, c'est vraiment la maison Selmer qui est reconnue comme étant ceux qui fabriquent les saxophones, les meilleurs saxophones. Donc voilà une photo, il y a quelques clichés, il y a une petite dizaine, je crois, de clichés d'époque, avec les ouvriers qui ont mis au point les instruments chez Selmer. Donc on voit ici Mario McAfee au centre. Cette photo montre bien qu'il supervisait. Il est resté deux petites années chez Selmer pour mettre au point tout un mode de fabrication. Et donc dans la mise au point, il a pu disposer de tous les outils techniques qui étaient chez Selmer, et Selmer fabriquait des instruments de musique en Meischer, en métal, et donc savait vraiment travailler le métal. Et donc là, par exemple, c'est des presses qui servent à coller les éclisses, les côtés de la guitare, de toutes les guitares Selmer, avec toutes ces parties métalliques qui sont fabriquées directement à Mantes-la-Jolie. Et ces écrous qui sont par exemple des écrous rapides, il y a cette partie qui s'ouvre pour descendre très rapidement sur la tige filetée. On n'a pas besoin, comme sur un papillon, de faire tourner le papillon longuement sur la tige filetée pour qu'il descende. Ça descend directement. Et il y a une partie conique qui va seulement, à la fin, permettre un serrage. Cet outil qui va servir à coller les tables d'harmonie qui est fabriqué en fonte. Et donc les particularités des guitares Selmer, alors déjà c'est une des premières fois qu'on fait vraiment une production en petite série, mais plus qu'à Mirecourt, où c'est une petite série et on fabrique vraiment de façon manuelle l'instrument, là on va le mécaniser, cette fabrication d'instruments. Et donc dans les initiatives aussi de Mario McAfee, on va fabriquer des instruments avec des éclisses et un fond en contreplaqué. Mario McAfee a eu une période comme concertiste, il a vu que l'instrument pouvait bouger à cause de l'humidité, de la sécheresse. Et donc il se dit, bah tiens, la pièce maîtresse, comme l'a prouvé Torres, c'est la table d'harmonie, bah moi là je vais faire des guitares qui seront stables et je vais faire ça en contreplaqué. Donc le contreplaqué, c'est toujours une pièce dans un sens, une pièce, une autre pièce dans l'autre sens, et la troisième pièce dans le même sens à nouveau. Et ça va nous faire, comme on fait un tissage de carbone aujourd'hui, un matériau stable, solide. Et la grosse initiative voulue par Mario McAfee, c'était vraiment, donc on est exactement à l'époque où on a vu tout à l'heure la guitare métallique à résonateur, ben il se dit aussi, moi aussi je vais faire un résonateur, je vais tenter d'améliorer l'acoustique de l'instrument. Et donc il crée un double fond à la guitare. Il se dit, le musicien repose toujours la guitare sur lui, et le fond, même si c'est pas la pièce maîtresse, il renvoie quand même l'air, il participe à l'acoustique de la guitare, et je veux pas que le musicien le touche. Et donc il va y avoir une caisse, et le deuxième fond va être en épicéa. Là aussi il se dit l'épicéa est la pièce maîtresse, je vais mettre du contreplaqué tout autour, mais le deuxième fond de ma guitare sera en épicéa. Et puis comme on le montre sur la photo ici, eh bien il veut un échange d'air pratique, rapide, sur son instrument. Donc il met en place ce qu'on appelle un réflecteur, pour permettre cet échange d'air plus rapide. Sur des questions acoustiques et de stabilité aussi, on voit justement les résonateurs qui sont ici sur la photo. Et là, on ne le voit pas très bien, mais cette guitare est ouverte. Il y a le côté de la guitare et le fond, elle est ouverte. Parce qu'il voulait qu'on vernisse aussi l'intérieur. Il se disait, on vernit l'extérieur de la guitare parce qu'on ne veut pas le salir, mais surtout parce qu'il ne faut pas que la sécheresse, l'humidité altèrent les doigts. Ce n'est pas logique de ne pas le faire à l'intérieur. Donc il faisait aussi vernir l'intérieur de ses guitares. Et puis là, ce n'est pas une initiative. Il y a eu d'autres renforts de manches avant lui. Mais là aussi, il veut que son instrument soit stable et on ajoute des barres métalliques à l'intérieur du manche. Chez Gibson, à cette époque-là, on a apporté bientôt le truss rod, une tige de renfort qui permettait un réglage du manche. Là, il est juste renforcé. Ça, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et puis, là aussi, il profite de l'usine et il met au point des mécaniques de meilleure qualité. Les arcs mécaniques à l'époque ont une tige filetée droite. Voilà, il y a un engrenage. Et finalement, il peut y avoir par exemple que deux dents qui prennent sur l'engrenage. Donc il y a une petite imprécision. Et puis surtout un usage, la mécanique s'use plus rapidement. Alors que là, il met au point sur la mécanique une vis globique qui permet d'être en contact partout pour un accordage plus aisé et avec moins d'usure. Voilà les ouvriers encore dans l'usine. Et donc il met au point toute une gamme d'instruments chez Selmer. Donc finalement, à gauche, on voit vraiment la guitare harp que Mario Macaferri jouait et qu'il avait appris à fabriquer chez Selmer. La guitare qui est au centre, en haut, on peut voir qu'elle a trois mécaniques d'un côté, quatre de l'autre. C'est une guitare hawaïenne. Il se joue sur les genoux, là aussi avec le bottleneck. La musique hawaïenne est vraiment à la mode beaucoup aux États-Unis et dans le monde. Et donc lui, on est vraiment à l'époque où on amplifie l'instrument. Et quand on amplifie l'instrument, on va faire des guitares hawaïennes, comme on l'a vu avec le frying pan. On va faire des guitares ténors à l'époque qui prennent l'accordage du banjo seulement avec quatre cordes. Et là aussi, on va les amplifier. On ne sait vraiment pas, quand on amplifie l'instrument, lequel on doit vraiment amplifier. Donc lui, dans sa gamme d'instruments, il y a beaucoup d'instruments. Cette guitare ténor, justement, à droite, qui est ni plus ni moins qu'un banjo. On a quatre cordes qui sont calquées sur le banjo et une caisse de guitare parce que le banjo prend beaucoup d'ampleur et les luthiers se disent mais nous on fabrique des guitares, donc ils fabriquent des guitares ténors banjo avec un corps de guitare. Et puis il y a bien entendu des modèles à cordes classiques qui sont à gauche et puis les deux de droite. Et puis le modèle finalement qui va rester dans l'histoire, pas encore à son état actuel, c'est celui-ci. Donc celui-ci qui est nommé le modèle orchestre. Mario Macaferri était espagnol, il avait bien connu la mandoline. Et donc cette guitare orchestre a des cordes métalliques qui sont semblablement celles de la mandoline. Les cordes métalliques de la guitare folk sont des cordes avec du bronze, des cordes qu'on voit souvent de couleur laiton, alors que celles-ci ont un filage qui est en nickel. Ça nous donne, comme sur la mandoline, des graves qui sont beaucoup moins graves que sur la guitare folk. Non, il est bien italien, Mario Macaferri. Et donc, dans toutes ces guitares, il y a un résonateur, sauf dans celle complètement à droite, qui est vraiment une guitare classique, mais dans toutes ces guitares, il a voulu mettre ce résonateur. Et Mario Macaferri s'en va en 32 de chez Selmer, et déjà, les musiciens, quelquefois, quand ils ont fait entretenir leurs instruments, on ne pouvait pas bien intervenir à l'intérieur, et certains luthiers ont enlevé les résonateurs. Et puis, on lit dans la littérature que, finalement, le résonateur n'apportait pas vraiment une amplification grandiose. Il est très long et difficile à fabriquer. Et à son départ, finalement, les ouvriers de l'usine se disent « Ce résonateur, les musiciens l'enlèvent, on ne va plus le fabriquer. » Donc, finalement, ils enlèvent ce résonateur de l'instrument. Et puis, au passage, ils réduisent aussi l'ouverture de la bouche, parce qu'ils se sont aperçus que s'ils enlevaient le résonateur en laissant cette grande bouche, eh ben le son ne portait pas vraiment très loin, on avait plus de médium, mais pas vraiment beaucoup d'aigus. Sur une guitare, plus on va ouvrir la taille de la perce, plus on va avoir une sonorité médium, plus on la réduit, plus les aigus vont porter. Donc, ils ont changé cette guitare, donc cette guitare, finalement, n'est vraiment pas une guitare de Mario Macaferri, parce qu'elle n'a pas ce résonateur et cette petite bouche. On va regarder un peu Django jouer sur celle-ci. Je reviens ici, finalement, malgré lui, Mario Macaferri a été beaucoup influencé à la naissance de ce jazz acoustique, de ce jazz manouche. Et au final, on voit la guitare que lui a mis au point à droite et à gauche, qui est celle avec la grande bouche, qui a une sonorité plus médium que les musiciens, dont les musiciens se servent pour jouer la pompe, pour jouer l'accompagnement. Et puis celle que les ouvriers ont après mis au point en enlevant ce résonateur, en réduisant la bouche. Voilà. Mario Macaferri n'aime pas trop le jazz manouche et puis n'a pas rencontré Django Reinhardt. On garde cet instrument souvent dans l'œil en disant c'est l'instrument de jazz manouche, mais finalement c'était l'instrument populaire par excellence des années 30 aux années 60. Celui qu'on voyait dans les bals populaires pour les orchestres, c'était cette même guitare. Je vais passer un petit extrait d'un film dans lequel on voit Yves Montand et puis Henri Crolla, un guitariste.
Dans le ciel de Paris, les cheminées d'usine ne fument que de gris. Mais le printemps qui s'amène une fleur sur l'oreille, au bras une jolie fille. Tournesol, c'est le nom de la fleur. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille et dans son coin des rues, à Belleville, à Séville, tourne sale, tourne sale, tourne sale, voilà seul les coins des rues, et les beaux jours sont venus, la belle nuit avec eux. Le génie de la Bastille fume une gitane bleue dans le ciel amoureux.
Donc oui, pour montrer que c'était il y a bien un rythme swing, mais voilà, cette guitare a accompagné toutes ces années. Et donc avant de terminer sur la vie de Mario Macaferri, pour vous dire ce qu'il a fait après, parce que vous pourrez penser à lui maintenant au quotidien, pour une anecdote qu'on va voir après. Cette corde de jazz manouche, cette corde argentine métallique, c'est une corde qui a aussi été montée sur beaucoup d'instruments pendant ces années. Et tous les enregistrements des chansonniers que vous entendez, Brassens, Brel, sont des gens qui ont joué avec ce même type de cordage et ce même son. On va regarder un petit extrait de Brassens pour regarder un peu sa guitare.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage.
Mais donc, quand on regarde sa guitare de plus près, il a là aussi un cordier, comme il y avait sur les guitares de jazz manouche, donc des cordes qui sont accrochées en bas de la caisse et qui permettent à la guitare d'avoir cette table fine et vibrante sans avoir de risque que le chevalet arrache la table d'harmonie. Ça permettait aussi ces cordes métalliques d'avoir une sonorité plus puissante. Et en fait, cette guitare à cordes acier, on la voit plus aujourd'hui. La guitare celle de Django, on la voit, il y a encore des luthiers qui la fabriquent, mais elle n'existe pas en magasin de musique. Celle de Brassens non plus. Et en fait, ces guitares sont tombées totalement en désuétude alors qu'elles étaient très populaires et très distribuées jusqu'aux années 60 parce qu'on a introduit les guitares folk et toutes les guitares américaines. Il faut savoir que jusqu'au milieu des années 60, quasiment toutes les guitares qu'on achète en France sont toutes fabriquées en France, celles qui sont pareilles pour l'Allemagne, pour l'Italie, etc. Mais finalement, il y a eu tout ce phénomène après la Seconde Guerre mondiale. On nous a amené, les GI ont amené des enregistrements, des sons, des photographies, des envies à toute cette jeunesse qui ne rêvait qu'une chose, ces guitares américaines. Voilà, alors qu'on avait vraiment cette particularité avec ces guitares-là. Et donc Mario Macaferri s'en va en 1932 de chez Selmer. Et puis finalement, il a eu pendant 30 ans cette période de musicien, mais après, tout le restant de sa vie, ça va être un ingénieur qui va mettre beaucoup de choses au point. Et donc, premièrement, de 33 à 39, il fabrique des hanches d'instruments de musique. Et ben, il a vu ça chez Selmer. Et sauf que, voilà... Tout de suite, il y a des instruments de mesure pour que le musicien lui-même se dise est-ce que mon hanche, enfin, comment qualifier mon hanche, est-ce qu'elle est encore souple, pas trop rigide, etc. Voilà. Et dès 1940, il crée cette French American Reed qui fabrique des hanches de clarinette en plastique. Et il va faire beaucoup de choses dans le plastique ensuite. Alors quand je disais que la vie de Mario Macaferri était liée aussi à l'histoire de la guerre, en 1939, il sent qu'il se passe beaucoup de choses en Europe et il arrive à attraper le dernier bateau au Havre pour rejoindre les États-Unis. Il est déjà allé aux États-Unis parce qu'il a déjà créé des échanges et distribué ses produits aux États-Unis. Mais en 1939, il se dit, bon là, il faut partir. Et donc, il va terminer sa vie aux États-Unis. Et donc, quand je vous disais que vous pouvez penser à lui au quotidien, c'est que en 1947, eh bien, il crée une autre entreprise avec laquelle il va faire fabriquer beaucoup d'objets usuels en plastique, dont les premières pinces à linge en plastique. C'est le même monsieur qui a créé la guitare de Django Reinhardt. Et on va même, au début des années 70, lui demander de fabriquer les boîtiers audio cassettes. C'est aussi Mario McAferry. Il y a beaucoup, beaucoup de, encore peut-être de foyers américains qui sont équipés de dalles isolantes dans les cuisines, dans les salles de bain, qui étaient fabriquées par Mario McAferry. Et néanmoins, il est toujours resté amoureux des instruments de musique. Et il a aussi une entreprise avec laquelle il fabrique des instruments de musique en plastique totalement. Et celui qui va rencontrer vraiment un grand succès, c'est ukulélé qui vendra à 9 millions d'exemplaires. Et il y a aussi, là encore, comme il a pu voir chez, je cherche le nom du luthier qu'il a fourni, chez Luigi Mozzani, bah toujours cette envie de former les gens, et donc il y a aussi ce petit boîtier qui permet avec un seul doigt vraiment de poser un accord sur le manche de l'instrument. Il y avait une petite méthode aussi dans le carton d'emballage de cet instrument. Et puis il reste quand même toujours amoureux de la guitare, et donc il fait fabriquer aussi toutes ses guitares en plastique. J'ai pu en voir une récemment, c'est vraiment extrêmement bien pensé. Tous les réglages sont possibles facilement. Néanmoins, c'est vraiment le seul de ukulélé qui va rencontrer un succès. La guitare en rencontrera pas beaucoup, et le violon encore moins, parce qu'il a pu s'atteler au violon et faire fabriquer des violons totalement en plastique. On va terminer sur ça. La photo est une vidéo amateur, mais c'est correct. Et puis on voit vraiment une jeune fille jouer de ce violon en plastique. La qualité n'est pas superbe, mais quand on écoute ça de près, les graves sonnent un peu creux tout de même. Mais quand même, si je ne vous avais pas dit que cet instrument était en plastique, on ne le voit pas tout de suite. Hein, pas du tout. Donc il n'y a que ce chevalet qui va rester en bois, sinon tout le reste de l'instrument est en plastique. Je pense qu'il n'y avait plus de clichés après. On était sur la dernière diapo. Ouais. Je finis avec le fil conducteur. Si vous avez des questions sur l'instrument, sur Mario McAferry, je suis ouvert. Bon. Oui. Non, c'est pas toujours en plastique les ukulélés. Et d'ailleurs, on en fabrique toujours beaucoup en bois. Aujourd'hui, on peut se dire que le plastique, c'est pas forcément le bon matériau parce que c'est que du pétrole. Mais à l'époque où Mario McAferry faisait ça, c'était une avancée technique parce que c'était très pratique de fabriquer en plastique.
C'est vraiment excusez-moi.
Le luth, c'est un instrument qui n'est pas fretté. Donc il n'y a pas de fret sur l'instrument. On va choisir la note finalement comme sur le violon. C'est pas le même type d'accordage, il y a une caisse qui est différente, c'est pas le même répertoire, c'est vraiment toutes les musiques qu'on va jouer autour de la Méditerranée. C'est un instrument très différent, je le dis.
Il y a la même chose. Il y a une...
Depuis quand? Je saurais pas y répondre, mais c'est assez vieux. Il y a des instruments qu'on dit monoxyde, fabriqués dans une seule pièce de bois. Je ne saurais vraiment pas le dater, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a vraiment très longtemps qu'on a fait des instruments avec une caisse de résonance. Désolé de ne pas pouvoir apporter plus de réponse. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fête.
Mettre un
en plus,
pour mettre des
Je vois qu'il a fait ici un luxe.